Évangile de Luc, chapitre 12, verset 49. C'est une question que Jésus pose. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les questions, il faut y répondre. Une question qui en dit long sur le désir du Seigneur. Luc, chapitre 12, verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Voilà le désir du Seigneur. Je ne désire rien si dans le cœur d'un homme, il y a un feu qui brûle. Vous savez ce qu'a dit Dieu dans le prophète Jérémie? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? N'avons-nous pas besoin de ce marteau? Parfois pour briser ce qui dans nos vies s'est transformé en dureté, dites-moi. Est-ce que ça peut nous arriver d'avoir le cœur dur? Le cœur endurci parce que la vie est faite de tellement de difficultés que notre cœur peut s'endurcir. Heureusement que notre Dieu a prévu que sa parole pourrait avoir l'effet d'un marteau capable de briser le roc, capable d'être comme un feu qui réchauffe. Vous avez déjà eu très très froid? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir froid? De rentrer dans une maison chauffée, quel confort lorsqu'un feu peut nous réchauffer, lorsqu'un feu peut nous éclairer, lorsqu'un feu peut purifier et surtout après le pouvoir d'embraser, car vous savez que le feu a ce pouvoir d'embraser les autres. C'est extraordinaire. Et je crois que lorsque Jésus a posé cette question, « Je suis venu jeter un feu sur la terre », il veut que son église soit bouillante. Est-ce que vous êtes soucieux d'être bouillant par le Seigneur? Pas des excités, mais avoir un cœur bouillant. Jésus pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Et pourtant Jésus était dans un calme total, mais son cœur était rempli de zèle. Son cœur était rempli de ferveur. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait qu'un but, faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Et il l'a fait parfaitement, sans commettre aucun péché, heureusement, sinon on ne pourrait pas être là. Le Seigneur passe, je pense, sur pas mal de choses. La Bible dit que la patience de Dieu est notre salut. Il y a des choses sur lesquelles Dieu patiente. C'est écrit. Est-ce que c'est écrit? Oui. Il y a des faiblesses, des manquements, un manque de connaissances, donc de l'ignorance. Il peut y avoir dans notre cœur un manque de révélation, etc. Mais il y a des choses que Dieu ne supporte pas. Entre autres, l'hypocrisie. Et la tiédeur. Quand vous voyez la condescendance du Seigneur par rapport à certains de nos problèmes, vous voyez que Dieu est patient. Mais lorsque Dieu parle aux gens qui sont hypocrites, il est sévère. Lorsque Dieu montre la tiédeur, on voit qu'il est contre la tiédeur. Vous connaissez à l'église de la Odyssée, il dit, voilà, ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tiède. Tu crois que tu es riche, etc., et tu ne sais pas que tu es pauvre. Voilà, il dit, voilà, mais je préférerais que tu sois froid plutôt que tiède. C'est quelque chose que Dieu ne supporte pas. Alors la volonté de Dieu, nous venons de la lire au travers de cette question, « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». Dites-moi, frères et sœurs, est-ce que ce soir, dans notre cœur, il y a cette soif de dire « Mais je voudrais vraiment être comme le Seigneur veut que je sois ». Est-ce que c'est important pour dire, Seigneur, mais vraiment, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et qu'est-ce que tu veux d'abord me donner pour que je puisse faire ce que tu veux que je fasse? Parce que des fois, on veut faire les choses de Dieu alors qu'on n'a même pas reçu ce qu'il voulait nous donner. Et ça crée une énorme frustration alors que Dieu nous propose d'être bouillant pour lui. Je ne sais pas comment vous l'analysez, cette question. Qu'est-ce que c'est cette question? C'est un défi à le relever? Ça culpabilise? Comment vous la lisez cette question? Comment vous la lisez-vous? Je suis venu jeter un feu sur la terre. Est-ce que c'est un encouragement? Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est une grâce de lire? Tiens, quand même, le Seigneur nous communique sa pensée. Quelle grâce! Oui ou non? Eh oui, quand même, qu'on le veuille ou non, toutes les fois où Dieu parle, même qu'on ne comprend pas trop, on peut dire, c'est quand même une grâce, je perçois dans mon cœur que Dieu veut, il veut faire quelque chose. Il veut refaire quelque chose. il veut m'utiliser pour son œuvre, pour l'avancement du royaume, pour le salut des âmes. Vous ne savez pas qui c'est que vous rencontrerez demain. Vous ne savez peut-être même pas après la réunion quelle est la personne avec qui vous allez rencontrer ici même, dans ce lieu, qui aura peut-être besoin d'une parole de connaissance, une parole de grâce, une parole d'amour, parce qu'on peut avoir besoin de chacune de ces paroles. Qu'est-ce que je comprends de cette question ? Je suis venu jeter un feu sur la terre. Alors le mieux peut-être, c'est déjà de réaliser que Dieu, il sait où on en est. Est-ce que vous savez où vous en êtes, vous ? Est-ce que vous savez toujours où vous en êtes ? Non, on ne sait pas. On le voit dans la parole de Dieu maintes fois. D'ailleurs, David dit dans le psaume 139, « Mais tu me connais, tu sais le chemin sur lequel je suis, tu sais ce que je vais dire avant même que je ne parle. Heureusement que Dieu sait où nous en sommes. » Dans le psaume 142, verset 4, il est dit, « Toi, tu connais mon sentier sur la route où je marche. » Heureusement que Dieu, lui, il sait où on en est. Il sait où vous en êtes. Il sait dans quel état d'esprit vous êtes. Il sait si ça ne va pas alors que vous, vous pensez que ça va. Il le sait. Et le psaume 139 le dit, « Mais tu me sondes, tu me connais. Regarde, regarde. » C'est David qui dit, « Mais regarde si je suis sur une mauvaise voie. Éprouve-moi, conduis-moi. » On voit cet homme. Pourquoi c'était un homme selon le cœur de Dieu ? Pourtant, il en a fait des erreurs et des faiblesses et des péchés, des manquements et même des mensonges. Mais il s'est toujours repenti. Et quand il disait, « Mais regarde-moi et montre-moi, éclaire-moi, montre-moi où j'en suis. » Et plus loin, il dit, « Mais tu sais le chemin sur lequel je suis. » Et ce soir, il n'y a que Dieu qui sait l'état de cœur dans lequel vous êtes. Il le sait. Est-ce que je suis tiède ? Est-ce que je suis dans l'apparence de la piété ? Est-ce que je suis devenu religieux ? Est-ce que j'ai besoin de découvrir autre chose ? Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous révéler davantage sa présence ? Bien sûr que oui. Quel est mon amour réel pour le Seigneur ? Il n'y a que lui qui le sait. Peut-être si on avait une note ce soir, quelle note ça serait ? Sur 20, si le Seigneur vous disait, je vais te noter. Regardez, il a noté l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. C'est une église qui va bien, enfin qui va bien, oui, parce qu'elle persévère, Dieu lui accorde certaines faveurs, on le voit que, regardez, on va lire Apocalypse chapitre 2, c'est la première église de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2 verset 1er, c'est une bonne église quand même, elle a des valeurs, elle a vraiment des valeurs. Apocalypse 2 verset 1er, écrit à l'église, à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Oui, Dieu sait, c'est tout, c'est ce qu'on fait. Ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Est-ce que c'est une bonne église ? Quand même, soyons honnêtes. Oui, c'est une bonne église. Il y a quand même plein de choses excellentes dans cette église. Mais regardez au verset 4, il y a quelque chose que Dieu voit et qui a besoin d'être vu. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc on peut faire toutes ces choses. Vous voyez, persévérer, ne pas supporter les méchants dans une église. C'est beau dans une église quand on ne supporte pas le péché, quand on ne supporte pas ce qui est mauvais. Qu'on veut la vérité. Vous voyez qu'on est capable d'avoir du discernement et prouver ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. On le voit qu'il y a des gens qui se font passer pour certains ministères et qui n'ont rien reçu de la part de Dieu. C'est beau d'avoir du discernement. C'est beau d'avoir cette capacité, etc., de la persévérance. Mais cette Église a commis une erreur. Erreur que nous avons souvent commis aussi. C'est souviens-toi donc d'où tu es tombé. Tu as abandonné ton premier amour. Premier amour, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'il y en a un second, ou un troisième, etc. Il y a plusieurs degrés dans l'amour. On le sait dans les relations humaines, on peut aimer quelqu'un, beaucoup, beaucoup moins, mais Dieu demande qu'on l'aime en premier. Voilà, le reste c'est bien, c'est très bien, Jésus le relève, Jésus ne dénonce pas que ce qui ne va pas, il montre ce qui va, mais on voit que le Seigneur a quelque chose contre cette Église. Elle a abandonné son premier amour. Et c'est ce feu dont parle Jésus, ce feu que nous pouvons obtenir, que nous pouvons redécouvrir, que nous pouvons recommencer à voir. Vous connaissez le proverbe, faute de bois, le feu s'éteint. Et si nous nous appliquions à dire, mais Seigneur, moi, mon feu, il va augmenter. Mon amour, je vais le retrouver. En plus, c'est quand même particulier parce qu'il explique, au verset 5 ce à quoi ça correspond. Il dit pas, c'est pas grave. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc, sans être culpabilisant, on peut quand même en déduire une chose, c'est que lorsque j'abandonne le premier amour, eh bien, ça, c'est une chute. C'est une chute spirituelle. On ne peut pas parler de rétrogradation. C'est des chrétiens qui sont dans l'église, qui persévèrent, qui ont du discernement. Mais Jésus utilise cette expression, souviens-toi d'où tu es tomber. Et qu'est-ce que ça nécessite? Eh bien, ça nécessite une repentance. On dit souvent, oui, la repentance, c'est pour les inconvertis, pour les gens qui découvrent l'évangile. Eh bien, non. On voit souvent dans la Bible que Dieu demande la repentance aux chrétiens, même s'ils ont des valeurs, et de belles valeurs. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Qu'est-ce que je faisais au début? Qu'est-ce que j'avais au début de particulier qui me caractérisait lorsque Dieu m'a appelé? Peut-être c'était cette soif de témoigner, cette soif peut-être de me tenir dans sa présence d'une manière vraie, d'une manière vivante. Car moi je crois que Dieu est capable de nous redonner ce qu'on a perdu. Je le crois vraiment. Quand? Maintenant. Vous croyez que ce soir Dieu est capable de redonner du feu à quelqu'un? Vous croyez que Dieu est capable de nous rejoindre comme les apôtres qui ont été les disciples d'Emmaüs? Vous vous rappelez ces deux disciples, hein? On y va dans Luc chapitre 24. Vous connaissez ces deux apôtres? C'était en plus, c'était le jour de la résurrection. C'était le jour de la résurrection. Est-ce que c'est un beau jour sur la terre, hein? Le jour de la mort de Jésus, c'est vraiment un grand jour. Mais je pense que le jour de la résurrection, c'est un grand jour aussi. Vous ne croyez pas? Parce qu'ils se complètent ces deux jours. Le jour de la résurrection, deux disciples, ils commençaient à s'éloigner. Ils auraient dû rester à Jérusalem. Jésus leur avait dit, vous resterez à Jérusalem. Et voilà qu'ils s'éloignent, vous voyez. À Luc 24, 13, voici ce même jour, dans le jour de la résurrection, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Bon, ça pour parler, est-ce qu'on est fort pour parler, hein? Pour parler de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, et parler, et etc. Mais ce qui est extraordinaire, que même si ça ne va pas trop, on voit dans ce texte la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils parlaient et discutaient, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur s'approche d'eux. Alléluia! Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais voilà ce qui se passe lorsqu'on discute trop et qu'on parle pour rien. Leurs yeux était empêché de le reconnaître. C'est une image pathétique, extraordinaire, merveilleuse. Ces deux disciples qui sont en train de parler, ils sont découragés, ils sont là, complètement abattus. Le Seigneur s'approche d'eux, ils sont incapables de le reconnaître. Et en plus, Jésus leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Vous voyez, cette question, est-ce que Jésus savait de quoi il parlait? Bien sûr. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il veut? Il veut provoquer la communion. Et c'est exactement comme ça que ça commence. Le Seigneur s'approche de nous dans une réunion comme celle-ci, au travers de la prière, au travers des chants, au travers de la prédication. Qu'on le veuille ou non, qu'on le comprenne ou non, qu'on le reconnaisse ou non, le Seigneur, lui aussi, veut s'approcher de nous. Il fait les 99 pas. Tout le temps, il les fait, ces 99 pas. À nous de faire le centième qui exprimera une foi vivante. Jésus s'approche d'eux, ils ne le reconnaissent pas, c'est terrible. Que de fois le Seigneur, on pourrait dire, ben, ils étaient vraiment aveugles. Mes frères et sœurs, combien de fois le Seigneur a voulu s'approcher de nous? On n'a même pas fait attention. Combien de fois le Saint-Esprit a provoqué un moment où nous aurions pu être bénis, on ne l'a même pas capté. Oui ou non? Que de fois, peut-être à la maison, dans la cuisine, dans le garage, dans une occupation, dans un moment, le Saint-Esprit aurait voulu s'approcher de nous, on n'a même pas reconnu l'action du Saint-Esprit. Donc ne jugeons pas trop vite ces deux personnes avant de comprendre que nous sommes tous dans le même cas de figure. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent. Là, ils se disent, mais c'est pas possible. Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, mais es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? « Quoi ?» leur dit-il. Voyez, le Seigneur, est-ce que le Seigneur aurait pu parler autrement? Il aurait pu dire, non mais vous n'avez pas ouvert vos yeux, vous savez avec qui vous êtes. Quoi leur dit-il? Et voilà, et du verset 19 au verset 24, ils vont déverser leur cœur. Je crois qu'il y a un moment pour parler. Il y a un moment pour parler, pour dire ce qu'on a à dire. Aux frères, aux sœurs, surtout au Seigneur. Vous croyez qu'il y a un temps pour parler à Dieu? Est-ce qu'on a le droit de déverser sa peine devant le Seigneur? Ben bien sûr, lisez les psaumes, c'est un homme, ce sont des hommes, les fils de Corée ou Moïse ou Asaph, ce sont des hommes, ils déversent leur âme devant le Seigneur. Et le Seigneur les laisse parler. Alors c'est résumé, c'est condensé, ça a duré un quart d'heure, ça a duré une heure, j'en sais rien. Nous espérions que, et on croyait que, mais tu sais pas, etc. Ils sont là, ils sont complètement découragés. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas quelque chose qu'ils auraient dû comprendre. Et au verset 25, il y a un temps pour parler, puis il y a un temps où le Seigneur doit nous parler. Souvent, c'est très compliqué cette affaire. Beaucoup de gens parlent, ils parlent, et puis dès qu'ils ont fini de parler, hop, c'est fini. Mais là, il y a une indication pour retrouver le feu, c'est savoir que le Seigneur s'approchera de nous, même si on ne va pas bien, qu'il y a un temps pour parler, et il y a un temps pour le laisser nous parler. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Est-ce que Jésus avait dit à maintes et maintes reprises qu'il devait vivre ce qu'il a vécu? Est-ce qu'il l'a dit, Jésus? Ah, c'est des disciples, hein? C'est pas des étrangers inconnus qui arrivaient à Jérusalem comme ça. C'était des disciples qui ont entendu plusieurs fois qu'il fallait que Jésus vive tout ce qu'il a vécu. Il leur dit, mais jusqu'à quand? Pourquoi ne le comprenez-vous pas? Alors, c'est sévère, homme sans intelligence. Il ne parle pas d'intelligence justement, humaine, mais il parle d'une intelligence spirituelle. Comment ne m'avez-vous pas écouté lorsque je vous avais dit ces choses? Ne fallait-il pas que le Christ souffre? Et regardez cette délicatesse du Seigneur. Moi, franchement, ça me touche de voir la tendresse de Dieu. Parce qu'il aurait pu les gronder, vraiment. Et, verset 27, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. La patience du Seigneur, que Dieu soit béni. Vous pouvez dire Amen. Parce que si on est là ce soir, c'est grâce à la patience du Seigneur. Même si on a fait des progrès, ce qui est formidable. Mais une chose est sûre, si on est tous là, c'est grâce à la patience du Seigneur. Et il commence, et il recommence, et il leur explique par Moïse et par les prophètes ce qui devait lui arriver. Alors la suite, bien sûr, beaucoup plus intéressante par rapport au sujet qui nous préoccupe. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Ça aussi. C'est comme quand ils rejoignent sur la barque lorsqu'ils étaient en train de couler, il est dit qu'il parut vouloir les dépasser. On a plusieurs textes comme ça où on a le sentiment profond que le Seigneur ne nous imposera pas, ne nous forcera pas à la communion. Et c'est vrai. Le Seigneur peut nous parler ce soir, vraiment nous parler. Et commencer à une œuvre, recommencer, recommencer une œuvre dans nos cœurs. Et il va passer. Et on va passer à côté. Il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Voilà une des bénédictions pour retrouver le feu. Être capable de dire, écoute Seigneur, ça fait 20 fois que j'ai perdu le premier amour. Je te demande de rester avec moi. Est-ce que le Seigneur le fera? Ben oui, mais testez-le. Reste avec moi, reste avec nous. Le soir approche, le jour est sur son déclin. Et moi je vous dis que spirituellement, le jour il est vraiment sur son déclin, que les ténèbres se spécissent et que Jésus va bientôt revenir chercher son Église. Si c'était valable à cette époque, à combien plus forte raison, le jour est sur le déclin, croyez-moi. Et il entra, et le Seigneur entre. Vous savez, si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous demandez, vous recevrez. C'est écrit dans la Bible combien de fois? Si quelqu'un, je lisais tout à l'heure, si quelqu'un veut connaître, il connaîtra. C'est une loi dans le royaume de Dieu. Dieu répond à la soif. C'est une chose, vous chantez, de chanter, j'ai soif de ta présence. C'est un cantique merveilleux. Moi, j'aime ce cantique comme c'est pas possible. Mais c'en est une autre de le vivre. J'ai soif de ta présence. Reste avec moi. Il entra. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il était à table, bon, en France, c'est facile à comprendre. On aime les tables. Est-ce qu'on aime les repas? Les repas de famille, est-ce que vous aimez les repas?
En France, on aime les repas, oui ou non? On n'aime pas des bons... Sérieux, soyons honnêtes. C'est, en France, vraiment, ce qui caractérise les Français, c'est qu'ils aiment passer à table. Ils aiment les repas de famille. Et là, c'est une image extraordinaire de la communion. Il y a des pays, ils mangent sur le pouce, ils mangent vite un bol de riz, etc. Mais il y a des endroits où les gens savent ce que c'est la table. Et nous le savons. Que le Seigneur soit béni pour les bons repas qu'il nous accorde. Reste avec nous. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. La croix, le pain rompu, le vin versé nous rappelle toujours le calvaire. Et si nous voulons retrouver le feu, il faut revenir au calvaire. Il faut revenir au Seigneur. Il faut lui dire, Seigneur, je veux rester avec toi. Ce n'est pas le temps d'une réunion. Dans demi-heure, la réunion est finie. Et puis, on peut passer à autre chose. Non, je veux que tu restes avec moi. Je veux que mes yeux s'ouvrent tout à nouveau. Et pendant, après avoir rendu grâce, il le rompit. Vous savez, il faut rendre grâce au Seigneur. Vous aimez rendre grâce, hein? Je ne parle pas de rendre grâce à table pour le pain et le fromage et tout le reste. Mais faites-le. Faites-le. Mais est-ce qu'on peut rendre grâce pour tout? Rendre grâce, Seigneur, je te rends grâce, tu m'as permis de venir. Tout à l'heure, je vais rentrer, mais je peux lire un psaume, je te rends grâce, Seigneur. Rendre grâce à Dieu, ce n'est pas, vous savez, des petits trucs là, religieux. Nous, on rend grâce tous les jours à table, ne vous inquiétez pas. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Rendre grâce... Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Vous entendez, mes frères et sœurs? Rendre grâce continuellement pour toute chose. Vous croyez que Dieu le voit quand on rend grâce pour tout? Pour tout! C'est comme ça que le feu recommence à venir. Je te rendrai grâce, Seigneur, pour toute chose. Alors, verset 31, leurs yeux s'ouvrirent. Il en faut du temps, hein? 11 kilomètres, ils ont fait. Peut-être c'était au départ 11 kilomètres, il faut combien? Il faut moins de 2 heures et demie de marche pendant le repas, ça faisait peut-être 3 heures. Vous voyez qu'il en faut du temps. Que vous le vouliez ou non, tout ça c'est résumé, on lit ça en 2 minutes, mais ça représente des heures avec le Seigneur, des heures pour que nos yeux s'ouvrent, des heures pour qu'on puisse commencer à le reconnaître. Ils devaient être fous de joie. Et regardez ce qu'ils ont dit. Verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Je le relis. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Bon, c'était un chemin. Bon, mais là, ça peut être ce soir dans votre lit. Ça peut être maintenant. Que Dieu recommence à vous parler lorsqu'il nous parlait. Mes frères et sœurs, si le Seigneur nous parle vraiment, ça m'étonnerait que le feu ne recommence pas à venir. Lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures, parce que quand même on a besoin d'explications. Ne fallait-il pas, et peut-être que je voudrais conclure avec cette pensée, ne fallait-il pas que certaines choses arrivent? Est-ce que Jésus n'a pas dit que certaines choses devaient arriver? Il y a des chrétiens qui sont rétrogrades parce qu'ils sont catastrophés par l'apostasie dans les églises. Et il y a de quoi être découragé. Mais frères et sœurs, est-ce qu'il ne faut pas que l'apostasie arrive? Est-ce qu'il faut que l'apostasie arrive? Oui, c'est écrit ou c'est pas écrit? Il faut que l'apostasie arrive. C'est le signe, vraiment le premier signe qui caractérise la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous aussi, nous ne devrions pas être catastrophés. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Il faut que ces choses arrivent. Il faut qu'il y ait de l'impiété. Ça fait mal au cœur. À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ne vous énervez pas, parce que le cœur du plus grand nombre, le plus grand nombre, c'est en plus, c'est pas le plus petit. C'est Jésus qui parle. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, beaucoup de gens, beaucoup, ça veut dire un grand nombre, beaucoup de gens se refroidiront. Ça va me faire rétrograder? Ça va me atténuer ce feu à moi de voir des gens qui rétrogradent? Bien sûr que ça ne nous plaît pas. Et c'est pour cela que l'Église doit continuer à prier. Mais mes frères et sœurs, ne fallait-il pas? Ne faut-il pas que ces choses arrivent? Eh oui, il faut que ces choses arrivent. Bien sûr qu'on peut prier pour que dans l'Église locale, nous soyons tous des vainqueurs. Oui ou non? Mais mes frères et sœurs, on ne peut pas passer à côté des prophéties. Il faut que ces choses arrivent. Jésus a dit, mais quand vous verrez ceci, quand vous verrez la terre remplie de violence, là, il en sera comme du temps de Noé. C'est écrit ou c'est pas écrit? Il en sera de même. La terre du temps de Noé était remplie de violence, de corruption. Il en sera de même. Que votre cœur ne se trouble pas. Il faut que ces choses arrivent. C'est exactement le même cursus que dans cette affaire. Ne fallait-il pas que le Christ souffre? Il fallait que le Christ souffre. Les gens, ils n'ont pas compris cette sphère de la première venue de Jésus, de la deuxième venue. Ils n'ont rien compris. Pourtant, Jésus leur avait dit. Et là, c'est pareil. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Il faut que ces choses arrivent. Souvenez-vous de la femme de Lot. Il en sera de même. Il l'a dit ou il l'a pas dit? Il l'a dit. Il en sera de même. Vous avez vu du temps de Lot et de comment était la ville de Sodome, de Gomorre, etc. Vous avez vu comment étaient les villes? Vous trouvez qu'elles étaient pieuses? Il en sera de même. Ce qui se passait du temps de Lot, ça se passera à l'avènement du royaume. Vous avez vu tous ces mariages mixtes, toute cette homosexualité, tout ça. Oh Seigneur, il faut que ça s'arrête. Je vais vous le dire, ça ne s'arrêtera pas, ça s'aggravera. Vous croyez que j'exagère? Non, ça s'aggravera. C'est comme ça. Parce que les gens ont rejeté le Seigneur, parce que les gens ont rejeté la parole de Dieu, ces choses-là, ces abominations, c'est ça qui fera que la colère de Dieu va venir et que l'Église va être enlevée. C'est pour cela, mes frères et sœurs, soyons dans le même état d'esprit. Il faut que ces choses arrivent. Il le faut. Et on pourrait multiplier les exemples. Il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. Je ne vais pas le dire, je ne vais pas tous les dire. Dans les derniers jours, quand il est parlé des riches, vous avez vu ces riches qui ont des milliards de milliards. On entend parfois parler à la télé qu'il y a 8 personnes aux États-Unis qui, rien qu'à elles seules, ont plus d'argent que tous les autres Américains réunis. Mais c'est... Est-ce qu'il y a écrit dans la Bible que dans les derniers jours, ça arriverait ces choses? On le lit. 2 Pierre 3. Mes frères et sœurs, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ont été à côté parce qu'ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas entendu les choses. Mais nous n'avons pas d'excuses parce qu'on a la Bible, oui ou non? On a la Bible, on est inexcusable. Dans 2 Pierre au chapitre 3, c'est écrit, 2 Pierre au chapitre 3, verset 3, et quelqu'un qui lit la Bible, il ne se fera pas piéger. La parole sera comme un feu, la parole sera comme un marteau, son cœur sera comme toujours attendri. Voyez, c'est écrit, 2 Pierre 3, verset 3, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, donc c'est ça nous concerne, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. » Vous trouvez qu'il y en a des moqueurs? Des fois, vous allumez la télé, sur n'importe quelle chaîne, vous voyez que des gens qui sont en train de se moquer. Je ne sais pas si vous le voyez. Il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Ils disent où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure. Voyez, les gens continuellement en train de se moquer. Verset 8. Mais une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Que son nom soit béni. Qu'est-ce qu'il est dit dans Jacques au chapitre 1? C'est important de lire la Bible. Quand je vois les chrétiens qui ne lisent plus la Bible, il ne faut pas s'étonner qu'ils deviennent tièdes et plus que tièdes. Jacques, chapitre 5, voyez, versets 1 à 8, quand il est parlé de... Alors, attendez que je ne me trompe pas. Jacques, chapitre 5, voyez, quand il est parlé de ces riches. Malheur à vous, riches, pleurez, gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous, car vos richesses sont pourries. C'est grave, hein? Vous ne trouvez pas que c'est grave? C'est pas interdit d'avoir de l'argent, c'est pas interdit d'être riche. Le problème, il est dans l'amour de l'argent. Vos vêtements sont rogés par la teigne, votre or et votre argent sont rouillés, leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors quand? Dans les derniers jours. Et la suite, je peux vous dire que c'est pas favorable pour eux. Mes frères et sœurs, il faut que ces choses arrivent. Le monde est déréglé, déstabilisé. Ne fallait-il pas que ces choses arrivent? Il faut que ces choses arrivent. Nous, notre devoir, c'est de maintenir ce feu. Et je voudrais terminer avec deux textes. Deux textes dans les psaumes. Hein, pour expliquer qu'on peut être dans la bénédiction et on peut être dans la douleur. Dans le psaume 39, on voit un homme qui est dans la douleur. Est-ce qu'il y a des moments de douleur dans la vie? Oui. Est-ce qu'il y a des moments de bénédiction? Oui. Il y a les deux. C'est pour ça que j'ai pris deux textes par rapport à cette affaire. Dans le psaume 39, on voit David qui souffre. Il souffre parce qu'il traverse un moment difficile. Voilà. Alors on va partir du verset 3. Il est malheureux. Il est malheureux, c'est David. Pourtant, c'est lui qui a enseigné sur le bonheur, croyez-moi. Psaume 39, verset 3. Je suis resté muet, dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux. Quand on est malheureux, des fois, il vaut mieux se taire. C'est la meilleure des choses. Et parler au Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Et ma douleur n'était pas moins vive. Oui, il souffrait. Mais regardez ce qu'il fait. Mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. À tel point que ce qu'il vivait à ce moment-là était tellement inspiré que Dieu l'a mis dans le canon des Écritures. Est-ce que vous vous rendez compte? Il est dans la souffrance, il est malheureux, mais il médite. Voyez, un feu brûlait au-dedans de moi. Et mes frères et sœurs, ce feu, comment le retrouver? Que je sois dans la souffrance, dans la douleur, que je sois dans le malheur, que je sois dans l'affliction, ça ne m'autorise pas à bouder et à bouder la méditation de la parole de Dieu. Et regardez, quand on voit ce psaume après, c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce où vous en êtes. Je ne sais pas si vous êtes dans la douleur. Je ne sais pas si vous êtes comme dans le psaume 45, au contraire, dans la bénédiction. Là, c'est les fils de Corée. C'est complètement différent, mais c'est le même cœur. Regardez, là on est dans la bénédiction, c'est pas écrit, mais quand on voit le psaume, on n'en doute pas. Psaume 45, regardez ces paroles, qu'est-ce qui se passe? Des paroles, le contexte n'est pas, mais en fait ça prouve que ça l'est. Des paroles pleines de charme, qu'est-ce qui se passe? Bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, etc., etc. Vous le lirez ce soir et vous verrez qu'il y a, la méditation, mais il y a l'adoration. La méditation amène ce feu, la véritable adoration amène un feu. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il recherchait des adorateurs. C'est pour ça que Dieu dit tu l'adoreras et tu le serviras, parce que l'adoration amène des paroles qui vont bouillonner. Vous avez vu une cocotte minute? Quand elle est sous pression, qu'est-ce qu'elle fait? Elle siffle. Eh bien, mes frères et sœurs, nous aussi, quand nous adorons le Seigneur, au bout d'un moment, eh bien, on sifflote. Oui ou non? Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas si vous êtes sur le chemin, vous ne savez même pas sur quel chemin vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes dans la douleur. Je ne sais pas si vous êtes dans la super grâce et l'adoration. Mais une chose est sûre, mes frères et sœurs, c'est que le Seigneur, il s'approchera de nous. Et il nous donnera encore une fois l'occasion de nous laisser répandre notre cœur, de s'arrêter et de dire, maintenant, c'est à moi de parler. Mes frères et sœurs, Dieu, il veut te parler. Mais il faut le laisser nous parler. Il faut être sérieux. Combien de temps il faut? Aujourd'hui, il faut que ça aille vite, vite, vite. Le café, il faut des machines qui soient de plus en plus rapides. 30 secondes pour avoir un café express. Avec le Seigneur, ça ne marche pas comme à la cafetière. Avec le Seigneur, il faut du temps. Mais je pense que ça vaut la peine, tout à nouveau, de retrouver cette communion avec Dieu. Seigneur, reste avec moi. Voilà ce que je veux, Seigneur. Je ne veux pas juste de bonnes réunions, de bons petits cultes personnels, de bons cultes, de bonnes réunions à l'église. Seigneur, je veux que tu restes avec moi. Parce que c'est sa volonté. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite dans le cœur d'un homme. C'est Dieu qui agit dans le cœur d'un homme. C'est ce feu qui revient. Et quand Jésus pose la question, parce que, attention, les gens souvent ils sont très sévères avec les questions du Seigneur, il ferait mieux de se taire et de considérer chaque question comme une occasion de retrouver la communion avec Dieu. Si Jésus pose la question, croyez-moi, c'est pour notre bien. Je suis venu jeter un feu sur la terre et je ne désire rien de plus si ce feu est allumé. Mes frères et sœurs, si nous les chrétiens, nous commencions individuellement, c'est quelque chose de personnel, à dire, Seigneur, il faut que ce feu revienne. Oui, je traverse une période difficile. Eh bien, ça ne m'empêche pas de méditer le Seigneur. D'ailleurs, on n'a pas lu le psaume 39 en entier. Mais dans le psaume 39, bien sûr, à cause de cette grâce, à cause de ce feu, il va dire à un moment donné, je reste muet dans le silence, car c'est toi qui agis. Vous savez, quand ce feu revient, vous avez la conviction que le Seigneur, il va agir. Vous voulez que Dieu agisse dans votre foyer, dans votre église, dans votre maison? Mes frères et sœurs, méditons la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Le feu de la méditation, le feu de l'adoration. Seigneur, je te reconnais pas trop en ce moment. Des fois, je me demande même si tu n'es pas loin de moi. Non, ce n'est pas lui qui est loin. C'est nous qui sommes loin. Alors Seigneur, je te remercie de t'approcher de moi. Vous savez, quand Élie était mal, c'était le grand prophète pourtant. Il a fui l'Éternel, il est parti dans un désert. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé des corbeaux. Vous savez, Dieu a des moyens, des drones à lui. Il a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Corbeaux. T'es sûr que c'était un corbeau? C'était pas des animaux impurs, les corbeaux? T'es sûr que c'est Dieu qui a envoyé les corbeaux? Moi, je ne comprends pas tout. Mais ce que je sais, c'est que Dieu ne l'a pas abandonné. Et que Dieu l'a béni. Le Seigneur, il saura toujours s'approcher de nous. À nous de lui dire, stop, reste avec moi. Je vais rentrer, Seigneur, reste avec moi. Facebook, pendant quelques jours, on va s'en séparer. Je ne sais pas, tous ces multimédias, machin, on va peut-être mettre ça de côté. Seigneur, moi je veux que tu réchauffes mon cœur. Je veux le premier amour. Oui, il y aura l'iniquité. Oui, il y aura le péché. Oui, il y aura les vierges folles. Et je pourrais donner une très longue liste de ce qu'il faut qui arrive. Et oui aussi, il y aura des vainqueurs. Ouais. Il y aura des gens qui diront ça, moi j'aime pas. Moi, j'écoute le Seigneur. Tu m'as dit que d'avoir abandonné le premier amour, c'est une chute. Ben, je l'accepte. J'ai chuté. Je me repens. Est-ce que vous croyez qu'on a tout à gagner à dire au Seigneur? Ben oui, j'accepte. Vous croyez que c'est pas intelligent, franchement? Seigneur, oui, j'accepte. J'ai chuté. Je pensais que ceux qui chutaient, c'est les gens qui commettaient l'adultère, c'était les gens qui allaient plus à l'église, les gens qui mentaient, qui volaient. Pour moi, c'était ça, la chute. Eh bien, j'apprends ce soir que la chute, c'est aussi l'abandon du premier amour. Eh bien, je l'accepte. Est-ce que tu le dis, Seigneur? J'accepte. Je ne vais pas me battre avec toi. Je vais me laisser bénir. On ferme les yeux, mes frères et sœurs. On lui demande cette faveur. Nous sommes devant Dieu, vous savez. Seigneur, il regarde au cœur. Pourquoi a-t-il rejoint ses deux disciples? Peut-être qu'il en aura visité plusieurs ce jour-là, puisqu'il est dit ailleurs qu'il en a visité 500 frères à la fois. En tous les cas, ce texte, il est là dans les Écritures. Ce qui veut dire que ce que Dieu a fait pour ses deux disciples, il peut le faire pour nous. Que son nom soit béni vraiment. Et s'il y a quelqu'un qui dans son cœur dit, Seigneur, oui, je te demande de m'aider. Il va vous aider, le Seigneur. Il ne peut pas ne pas vous aider. Si vous le laissez aller plus loin, c'est que vous n'avez pas envie qu'il reste avec vous. Et ça, Dieu le respectera. Il ne va pas vous obliger. Il ne va pas vous forcer, me forcer. Il attend qu'on le fasse de bon cœur. C'est une loi du royaume. Dieu ne force personne. Il dit, efforce-toi. Mais jamais, jamais, Dieu n'a forcé quelqu'un. C'est comme ça. Demandons-lui son aide, simplement. Notre Père, combien nous te remercions de nous montrer que lorsque ça ne va pas, même si nous sommes incapables de te reconnaître, si nous sommes incapables de comprendre ce que tu nous as dit plusieurs fois, nous te remercions pour ta patience de recommencer à nous expliquer par les Écritures ce qui te concerne, ce qui nous concerne, ce qui va arriver. Seigneur, oui, nous voulons cette communion, nous voulons ce feu, nous voulons ce premier amour, et nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons chuté en ce qui concerne ce véritable amour. Nous voulons ce soir réclamer ton aide, Seigneur, sincèrement, pas mécaniquement, pas religieusement, pas parce qu'il faut, mais vraiment, Seigneur, nous te demandons de nous aider afin que dans cette ville de Toulouse, il y ait une église bouillante, une église où le feu du premier amour embrasera les autres frères et sœurs, où nos enfants seront embrasés par ce feu, où les païens seront embrasés par ce feu, où les pécheurs qui viendront et qui nous rejoindront dans les réunions dimanche, samedi soir, dimanche après-midi et dans les autres réunions, lorsque les pécheurs viendront, lorsque les chrétiens viendront, lorsque les fils prodigues viendront, il soit éclairé, réchauffé, embrasé par ce feu qui nous caractérisera. Seigneur, oui, nous réclamons ton aide, comme les fils d'Azaph ou comme David, qu'on soit dans la bénédiction ou qu'on soit dans la douleur, ce que nous voulons, c'est que ce feu revienne dans nos cœurs pour que ton désir soit assouvi. Seigneur, tu désires ces choses, combien nous voudrions vraiment répondre à cet appel. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.